une heure de politique avec l'émission Panthère Rouge présentée par Lise, Jean, JM au micro et avec Antoine aux manettes. Une vraie course. Ils pompent notre bonne vieille terre sans s'arrêter aux détails. À coups de grands tuyaux, depuis leur plateforme marine, ils pompent en quelques mois ce que la nature a mis des millions d'années à faire maturer. Et puis, ils vont tellement vite qu'immanquablement, ils choisissent de sacrifier la sécurité pendant leur hold-up à grande échelle. Voilà comment le 20 avril, à force de trop écorcher les grands fonds, ils ont perdu le contrôle de leur entreprise de fou. Près d'un million de litres de pétrole qui quittent la poche souterraine chaque jour, depuis près d'un mois maintenant. Tout un écosystème sacrifié, bousillé sur l'autel de la rentabilité à court terme. Ces gros groupes se goinfrent en sacrifiant l'avenir collectif de la planète. Alors on se dit qu'il faudrait réagir vite, histoire de les stopper dans leur course folle. Mais de ce côté-ci de l'Atlantique, l'heure n'est pas à la raison. Et chaque jour qui passe, voit encore le peuple perdre le pouvoir de décider son avenir. Au Royaume-Uni, le mode de scrutin uninominal a encore frappé. Les arrangements entre les dirigeants des principaux partis qui ont suivi les élections n'est qu'une méprisante guerre de pouvoir où le peuple n'a pas son mot à dire. Ces conséquences directes du scrutin à un tour favorisent le bipartisme. On s'éloigne encore plus d'un système réellement démocratique. Plus aucune illusion n'est possible sur la soi-disant démocratie du système. En France, le projet de réforme des élections régionales prévoit d'imposer un système uninominal, réduisant encore l'influence des partis non majoritaires sur la vie quotidienne. Difficile d'y voir une amélioration de la démocratie. Aujourd'hui, nous parlerons d'agriculture. C'est l'une des rares activités essentielles à notre survie. Elle prend des formes multiples, depuis les exploitations familiales jusqu'aux énormes structures où seule la rentabilité compte. Au fil du temps, avec l'avancée des techniques et des choix de société, elle a énormément évolué. Son histoire est parsemée de mots comme esclavage, mécanisation ou encore OGM. Nous verrons au cours de cette émission qu'elle n'a pas fini d'évoluer, répétant parfois les erreurs du passé. Pour comprendre un peu mieux les enjeux et les réalités de l'agriculture, nous aborderons aujourd'hui deux sujets. On commence par un entretien avec Pierre Cornu, spécialiste de l'histoire rurale. On abordera avec lui les mutations de l'agriculture française. Puis on parlera ensuite de l'accaparement des terres à l'échelle mondiale. C'est un sujet méconnu et pourtant qui intervient pleinement dans la crise financière que l'on connaît.
Thank you.
Vous êtes toujours sur Radio Campus avec Panthère Rouge et on parle d'agriculture. On commence par une interview réalisée le 12 mai par Jean. On va y entendre Pierre Cornu, chercheur historien, spécialiste de l'agriculture rurale.
Bonjour Pierre Cornu, vous êtes maître de conférence à l'université Blaise Pascal, spécialiste d'histoire rurale et membre de l'association des ruralistes français. Alors, nous aimerions revenir avec vous sur les mutations de l'agriculture française et les conditions de sa modernisation. Alors, je mets le terme entre guillemets, on verra que ce terme est forcément connoté. Quelles ont été en France les logiques du passage d'une paysannerie nombreuses et de petites exploitations, donc qui est la situation que nous trouvons au moins jusqu'à la moitié du 19e siècle, voire au-delà, à un groupe actuellement d'agriculteurs peu nombreux, mais très productifs.
Alors, c'est une vaste question. Il faudrait une longue leçon d'histoire rurale pour y répondre. Je vais simplement vous donner quelques éléments rapidement. Je dirais que, tout d'abord, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un changement, une mutation qui s'est faite d'un seul coup, en une génération. C'est une succession de changements, d'adaptation, de crise parfois, de mutations à certains moments qui ont amené à la situation actuelle. Et la situation actuelle n'est pas un point terminal de cette histoire. D'autres évolutions nous attendent qui sont déjà en germe dans le présent. Alors que dire de cette longue histoire qu'effectivement elle a connu une phase d'accélération dans la seconde moitié du XXe siècle. On a abandonné assez brutalement un modèle qui était assez ancien et qui était dynamique d'agriculture de peuplement dans une économie rurale complexe et qui était une économie peuplante, qui effectivement impliquait un tissu d'exploitation très dense sur le territoire, avec des nuances entre plaines, montagnes, régions littorales, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Mais effectivement, ce modèle impliquait de fortes densités, une économie rurale complexe, mobile, active, innovante également. Et ce modèle a été en grande partie abandonné dans ce qu'on a appelé, dans ce que Michel Desbaptistes a appelé la révolution silencieuse des années 1950-1960, pour un modèle que l'on a qualifié ensuite de productiviste, mono-fonctionnel, fondé sur l'idée de performance économique, avec un certain alignement de la production agricole sur la production industrielle et sur ses normes. Alors, ça, c'est pour la tendance générale. Maintenant, il ne faut pas surjouer cette transition en donnant l'impression qu'il y a eu un véritable séisme qui aurait complètement tourné la page de l'économie rurale ancienne. Il y a certes une tendance dominante qui s'est imposée et qui a abouti à la disparition de la majorité des exploitations sur le territoire français. Cela dit, des logiques anciennes ont perduré et d'une certaine manière, nous ne sommes toujours pas sortis du modèle de l'exploitation familiale fondée sur un lien entre un individu ou un couple, une famille, la terre d'une exploitation, un marché d'abord local, puis éventuellement national et global, et qu'on n'a pas résolument et définitivement coupé avec cette relation-là. Et c'est bien cela qui fait encore débat aujourd'hui. Si nous avions vraiment liquidé l'agriculture paysanne, entre guillemets, le débat ne serait pas là. Cette forme d'agriculture demeure. Elle demeure, elle est fragilisée. La question est de savoir s'il faut la réactiver, réinventer une forme d'agriculture territoriale, ou effectivement, l'abandonner à son sort qui est de disparaître à une ou deux générations d'horizon.
Donc la tendance lourde est donc vers une diminution du nombre de travailleurs de la terre, pour prendre peut-être une expression assez neutre.
C'est une tendance statistique, effectivement, mais qui n'est pas limitée à la période récente. C'est quelque chose qui s'étend sur une très longue durée.
Mais pourrait-on imaginer, et c'est une hypothèse, un repeuplement ou une réaugmentation du nombre d'exploitations, du nombre d'exploitants, avec la remise en cause actuelle que l'on sent dans l'air du temps de l'agriculture productiviste et de la valorisation du retour à des plus petites exploitations respectant des normes environnementales, par exemple, plus respectueuses, débouchant sur une agriculture moins productiviste.
Alors, il y a deux éléments dans votre question. Tout d'abord, je vous rappelle que ma compétence est une compétence d'historien et que comprendre les enjeux socio-économiques actuels du monde rural, des exploitants, c'est plutôt le travail de mes collègues de l'Association des ruralistes français ou d'autres structures de recherche qui s'intéressent à la sociologie, à l'économie rurale actuelle. Bon, cela dit, je travaille avec eux, je lis leurs travaux et ce que je peux vous en dire, c'est que les analyses qui sont produites aujourd'hui tendent à développer l'idée d'une évolution duale. En quelque sorte, nous serions en train d'évoluer non pas vers une agriculture nationale, mais vers deux agricultures, deux systèmes, à la fois relativement autonomes et étanches l'un vis-à-vis de l'autre, en même temps concurrents, notamment pour les subventions nationales et européennes. Ces deux systèmes, eh bien, il y a le système productiviste qui se maintient pour certaines filières. Je pense aux céréales, je pense aux betteraves, je pense aux filières qui sont liées aux usages industriels des produits agricoles. Et puis, il y a ce qu'on appelle une agriculture territoriale. Une agriculture fondée sur une insertion dans un territoire, dans des usages, dans des productions, dans des rapports avec des consommateurs, hein, dans ce qu'on appelle, qui est relativement à la mode aujourd'hui, les circuits courts. Et finalement, ces deux modèles d'agriculture, le modèle productiviste ou ce qu'il en reste, il en reste quand même un élément très puissant. Et cette agriculture territoriale qui serait une manière de réhabiliter, de réinventer, de requalifier l'agriculture paysanne avec les guillemets d'usage, ces deux agricultures cohabitent sans trop se comprendre sur le territoire. Et on pourrait imaginer effectivement que l'avenir soit au creusement de ce fossé avec une course à la productivité des plus grands et avec, en bonne partie à la demande des consommateurs et des élus locaux, des politiques de soutien d'une agriculture qui ne serait pas peut-être performante selon les canons de l'analyse économique classique, mais qui serait jugée indispensable pour le tissu social, pour la qualité des produits dans les cantines scolaires, etc., pour la valorisation des territoires, en liaison avec le tourisme vert. Bref, toute une politique de développement local d'une agriculture territorialisée, en prise avec la vie sociale. Le problème de ce dualisme, c'est qu'il est un peu schizophrénique et qu'il justifie effectivement une politique nationale et européenne qui fait de grands discours sur le bio, sur le local, etc., et qui en même temps continue ses recherches sur les OGM, sur la manière de gagner des parts de marché mondiales, sur la subvention aux exportations. Et donc on ferait plaisir à tout le monde, mais en ayant une politique incohérente.
Sur une question que je voulais vous poser concernant la politique agricole commune, la PAC, dont on parle beaucoup en termes de réforme, d'une nécessaire réforme de la PAC, c'est ce qu'on entend souvent dans les médias, ou d'une réforme en cours. Est-ce que vous pourriez revenir un instant sur les logiques initiales de la PAC au moment où elle est mise en place dans l'après-guerre, dans les années 1950, et sur la remise en cause actuelle des objectifs initiaux, et vers quel PAC est-ce que l'on semble, quel type de subvention, puisqu'en fait c'est souvent affaire de subvention, vers quel type de subvention est-ce qu'on semble aller?
La politique agricole commune est effectivement un produit des traités ayant donné naissance à la communauté économique européenne, donc essentiellement le traité de Rome de 1957. Cela dit, quand on relit le traité de Rome, les questions agricoles Ils ont très peu de place. Et on voit très bien qu'elles n'ont pas été pensées réellement. Il y avait certes eu un projet de poule vert au début des années 50 qui avait échoué hein, parallèlement au projet de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Mais manifestement, à la fin des années 50, la réflexion est très peu mûre encore sur ces questions-là. Alors ce qui est paradoxal pour nous, c'est que effectivement, l'agriculture est très peu présente au tout début de la construction européenne. Et puis aujourd'hui, on a l'impression que, ce n'est pas qu'une impression d'ailleurs, que les enjeux agricoles sont très importants et qu'on passe son temps à se disputer sur l'agriculture à l'échelon européen. Alors, comment comprendre ce mystère ? Quelques éléments, simplement. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a jamais eu, pour les institutions européennes, l'idée de développer une politique agricole fermée sur elle-même, qui formerait un tout, qui aurait l'objectif généreux ou utopique de développer le monde rural européen. Il faut comprendre que les politiques européennes ont été développées dans un tout, qui était comment dépasser le stade des États-nations dans le contexte de la guerre froide et construire un outil de développement qui préserve à la fois les spécificités de ces États-nations héritées de l'histoire et qui permette une structuration à un échelon supérieur. Et dans cette optique, les traités européens et leur mise en musique, leur mise en application concrète dans les années 60, n'impliquaient pas de segmenter les politiques. C'était en fait une politique de compromis permanent, d'ajustement entre les acteurs. Et je crois qu'on comprend bien mieux la PAC si on rappelle que l'enjeu majeur de la construction européenne à ses débuts, c'était d'équilibrer la relation franco-allemande. Et il était évident qu'une Europe du libre-échange fondé sur la puissance industrielle se ferait au détriment de la France. À l'époque où le miracle allemand avait reconstitué tout le potentiel et toute la productivité de l'industrie allemande à la fin des années 50, et donc il fallait trouver des compensations pour la France, des compensations pour l'Italie également. Et donc, dans cette logique de compromis et de donnant-donnant, on a construit cet objet improbable qu'est la politique agricole commune, qui aurait dû permettre un équilibre entre un foyer d'exportation industrielle qui était essentiellement rhénan, à l'époque où la République fédérale d'Allemagne était un État plus petit que l'Allemagne actuelle, et puis une France qui avait reconstitué son potentiel agricole, qui était en train de le moderniser et qui avait pour ambition de nourrir l'Europe, en tout cas cette petite Europe de l'époque de la guerre froide. Il faut rappeler également que ça n'est pas la PAC, contrairement à ce que l'on dit trop souvent, qui a accompagné, financé la modernisation de l'agriculture européenne. Car la PAC, certes, ces principes sont votés en 1957, mais l'entrée en vigueur des principes de la PAC, ça a été extrêmement laborieux et c'était une crise dès le début. La PAC est en crise depuis ses débuts et c'est seulement depuis 1967-68 qu'il y a des effets concrets de cette politique, c'est-à-dire à un moment où la révolution productiviste est achevée et même en voie de se terminer. La PAC est devenue opérationnelle comme soutien au productivisme au moment de l'entrée dans la crise du productivisme, ce qui change un petit peu la perspective qu'on a sur l'objet. Et de fait, la PAC est en crise depuis le début de son fonctionnement, en crise politique sur l'équilibre entre Français et Allemands d'un côté et puis entre continentaux et Britanniques de l'autre, avec l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun en 73. Rappelez-vous la crise avec Margaret Thatcher sur la question des subventions agricoles. Et puis surtout, la PAC est en crise perpétuelle parce qu'elle a été pensée comme une politique de soutien à la production et elle est entrée en vigueur à une époque de surproduction. Et donc, cela explique aussi pourquoi la PAC, depuis ses débuts, est un gouffre financier, enfin un gouffre financier relatif, hein, mais qui a englouti à un moment plus de la moitié du budget européen. Alors, le seul élément que je voudrais ajouter à cela, c'est que pour bien comprendre comment cet objet, cette PAC improbable, est toujours en crise, est resté jusqu'à aujourd'hui un enjeu majeur, je pense qu'il faut comprendre que l'idée, c'est que c'est un objet de compromis. Un objet de compromis entre les États, mais aussi un objet de compromis entre la théorie du libre-échange et du laisser-faire et l'interventionnisme des États. Finalement, il y a, avec la PAC, un outil qui a été inventé qui justifie qu'il y ait encore une politique économique au moment où on tombait dans une logique libérale où, a priori, les États devaient se désengager. Et comme par miracle, les questions agricoles, par leur complexité, par leur lien au territoire, par leur lien à la tradition et au supposé mythe fondateur des nations, justifiaient qu'on aille très précautionneusement gérer les choses avec du politique, avec de la régulation et avec une petite dose de protectionnisme aussi, héritage de l'avant-première guerre mondiale même.
L'actuelle PAC ne cherche pas forcément à se fondre dans le moule libre-échangiste, mais maintient une volonté interventionniste et de soutien dirigée, on pourrait dire, vers les agricultures nationales. La PAC nouvelle mouture, ou telle que... Bon, la crise est permanente, vous l'avez dit, mais telle qu'elle semble évoluer, ne rentrerait pas vers plus de libéralisme dans le domaine de la production et du commerce agricole? Pas forcément, en tout cas.
Alors, si on raisonnait de manière dogmatique, être vraiment libéral en matière agricole, ça serait supprimer la PAC et obliger les structures viables à prouver leur viabilité et jeter les exploitants dans une concurrence internationale. Personne n'y songe, même les partis libéraux européens. De toute façon, pour que les marchés agricoles fonctionnent selon les dogmes de la pensée libérale, il faudrait que des prix de marché s'établissent, qu'un système de libre concurrence se crée à l'échelle mondiale, qu'il y ait un marché à la fois de la terre, des produits, de leur transformation, de la spéculation sur ces produits, etc. Ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu de phase de l'histoire où les questions agricoles aient été entièrement confiées au marché. Et aujourd'hui, les prix agricoles, les revenus des exploitants, les chiffres de la production, la partie consommée, la partie transformée, la partie exportée, tout cela est le fruit de régulation. Les acteurs de cette régulation, ce ne sont pas seulement les États. Hein. Il y a bien sûr les États qui interviennent, il y a l'Union européenne aujourd'hui, mais il y a aussi les structures syndicales, il y a les structures coopératives, il y a les organisations de marché, il y a les industries agroalimentaires, il y a des cartels ou des sortes de cartels qui fixent des prix standards sur certaines production ou certaines transformations, on n'est pas dans l'épure du marché libre. Donc la PAC, en crise perpétuelle, oui, en même temps, elle fonctionne, elle distribue ou elle redistribue de l'argent. Si vous voulez, la crise de la PAC, c'est sa difficulté à sortir d'une logique de subvention à la production, qui était la logique initiale, pour aboutir à une subvention qui ait un effet bénéfique sur l'aménagement des territoires et sur l'emploi dans les zones rurales. Avec la recherche, mais depuis les années 90, hein, on n'a pas inventé ça hier, d'une plus-value environnementale. Ça n'est pas faute de réflexion, ce n'est pas faute d'études. À la fois les chercheurs nationaux, les instances européennes produisent année après année des études colossales sur les enjeux agricoles européens. Donc on est très informé, mais le problème est très complexe. Et il est complexe parce que les intérêts ne sont pas les mêmes en Europe occidentale, en Europe orientale. Les intérêts ne sont pas les mêmes pour les éleveurs et pour les céréaliers, pour les gros et pour les petits. Et donc, l'idée d'une seule PAC valable pour tout et pour tous est en soi utopique. Donc, la PAC est systématiquement un compromis, mais un compromis qui, parce qu'il est lié au compromis fondateur du traité de Rome, et notamment à l'idée que la France, par son statut hérité de la sortie de la Seconde Guerre mondiale, avait une suprématie symbolique sur l'Allemagne et sur ses partenaires, cet héritage-là, auquel la France s'accroche, auquel la France s'est accrochée de manière très forte sous les présidences Chirac et qui est remis en cause aujourd'hui. Cet héritage est en train de craquer de toutes parts. Et effectivement, il est logique que le syndicalisme agricole majoritaire français soit inquiet de voir que Chirac a été le dernier représentant d'une forme de politique agrarienne assez conservatrice à l'échelle nationale et européenne, que le président actuel est beaucoup moins intéressé aux questions agricoles et encore moins aux questions rurales et des territoires. Et donc, effectivement, on pourrait voir naître à l'échelon européen un nouveau compromis fondateur des rapports de puissance dans lequel, cette fois-ci, les questions agricoles et territoriales seraient sérieusement mises à la marge. C'est pas impensable. Thank you.
que l'agriculture reste pour les pays les plus riches, on vient de parler de l'Union européenne, mais il y a aussi les États-Unis, un domaine privilégié d'action et d'intervention des institutions publiques, alors que les pays pauvres n'ont pas forcément les mêmes moyens pour leur agriculture. Et ne voit-on pas apparaître, question n'en est sans doute pas vraiment une agriculture à deux vitesses dans le contexte de la mondialisation, c'est-à-dire des agricultures qui se donnent les moyens de se protéger, de se donner un sens ou une cohérence, d'entrer dans un schéma économique d'ensemble, et des pays qui sont désarmés ou n'ont pas les moyens de s'opposer aux investissements prédateurs, peut-on dire, des pays qui, eux, sont en manque d'espace agricole et qui donc vont essayer d'aller chercher dans les pays pauvres, d'acheter une partie de leur territoire.
Alors, encore une fois, mes compétences sont limitées sur ces questions à l'échelle globale. Simplement, ce que je peux ajouter comme historien, c'est que ça n'est pas d'hier que ce qu'on appelait autrefois la question des subsistances est un enjeu politique majeur, un enjeu de maintien des structures de pouvoir. Et que nous sommes passés d'une maîtrise à l'échelle des petits États européens de la question des subsistances à une échelle globale. Et celui qui tient la production agricole, celui qui tient les marchés, effectivement, tient en grande partie l'ordre mondial. Donc il y a là des enjeux colossaux, il y a effectivement des rapports qui sont très fortement inégalitaires. Mais encore une fois, ces rapports inégalitaires et la prédation des ressources, que ce soit en travail, en ressources minières ou agricoles, en produits végétaux, en bois, etc., ça n'est pas d'hier. Hein. On est dans la continuité d'une histoire de rapports entre un centre économique ou des centres économiques mondiaux et des périphéries. Les périphéries sont assujetties au centre. Et là, effectivement, dans un contexte qui s'apparente d'une certaine manière à un contexte malthusien, il y a une fin de terre, hein, fin FIM, une fin de terre à l'échelle planétaire qui a tendance à tendre les marchés fonciers et à faire que ceux qui ont le capital, désolé de revenir à Marx, mais là, les enjeux sont clairs, hein, ceux qui ont le capital investissent dans le capital foncier dans l'idée de prévoir, d'anticiper sur les pénuries à l'horizon de 20, 30, 50 ans. Donc on est effectivement face à l'horizon d'une planète dont les ressources se rétrécissent et il y a des stratégies d'acteurs économiques qui ont les moyens de prévoir et de prévenir des évolutions et qui se mettent en situation de... Maintenant, il faut quand même regarder la situation réelle. Hein. Les investisseurs qui ont commencé à acheter des terres en Afrique, par exemple, commencent à se rendre compte que s'adapter au code de la propriété, gérer dans la durée les populations expropriées ou situées à la marge des terres achetées, va leur poser des problèmes colossaux. Et on va revenir à cette impasse qu'a été l'aventure coloniale en Europe, c'est que la colonisation n'est jamais une bonne affaire. À long terme, la colonisation coûte plus qu'elle ne rapporte. Elle rapporte énormément à une poignée d'acteurs, mais globalement pour la puissance qui construit une relation coloniale, c'est extrêmement coûteux. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas retenter l'expérience. L'histoire n'a jamais servi à corriger les erreurs du passé, hélas.
Très bien, merci. Nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup.
Vous écoutez l'émission Panthère Rouge jusqu'à 19h, que l'on peut également écouter sur le blog de l'émission audioblog.arteradio.com/panthère rouge.
Et donc on va enchaîner sur l'accaparement des terres.
Oui, tout à fait. Donc comme on l'a vu à l'instant avec Pierre Cornu, hein, au niveau de l'agriculture française, ça évolue beaucoup, il y a beaucoup d'acteurs. Et donc oui, effectivement, l'idée maintenant, c'est de changer d'échelle et on va s'intéresser à un autre aspect qui est l'accaparement des terres.
Donc qu'est-ce que c'est l'accaparement des terres? C'est peut-être pas très clair. C'est des dizaines de millions d'hectares de terres agricoles en Asie, en Afrique, en Amérique latine qui sont vendues ou louées par des gouvernements à des investisseurs ou des entreprises étrangères et pour faire de l'agriculture destinée à l'étranger, justement. Alors un exemple, la moitié de Madagascar est mise à disposition à l'entreprise coréenne Daewoo.
Daewoo.
Voilà. Les raisons de l'accaparement sont multiples en fait. Il y a des pays très différents qui ont des raisons très différentes d'aller chercher des terres. Parmi les grands pays qui accaparent des terres, il y a la Chine, les Émirats Arabes Unis, l'Inde, le Japon, et donc on voit que les situations sont très différentes. Le point commun, c'est leur non-autosuffisance alimentaire ou la peur de la non-suffisance alimentaire. Et la situation, en fait, l'engouement pour l'accaparement de terres a vraiment été encouragé par la crise alimentaire qu'il y a eu en 2007. Pour revenir juste sur le thème accaparement des terres, mm-hmm. C'est pas un terme neutre, c'est un terme qui est assez fort. parce qu'on pourrait simplement dire bon ben c'est de la location de terrain. Et ben non, parce que c'est vraiment de l'accaparement, parce que ça traduit le fait que ça se fait pas pacifiquement, que les populations locales sont souvent déplacées, on le fait au dépens, enfin contre les populations locales.
Ok.
Alors juste pour citer une personne. Président exécutif de la ROPA, le réseau des organisations paysannes et des producteurs d'Afrique de l'Ouest, qui dit « Des communautés entières ont été dépossédées de leurs terres au profit d'investisseurs étrangers. Certains États n'ont pas hésité à procéder à la déforestation massive pour satisfaire ces capitaux étrangers. » Donc ça donne un peu une idée de comment ça se passe. En fait, je pense que ce qui a déclenché ça, c'est la crise alimentaire. Je vais peut-être revenir là-dessus.
Oui. Pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi c'est le déclencheur ?
Eh ben, c'est toujours cette peur de la non-autosuffisance alimentaire qui a poussé les pays à aller chercher de la terre ailleurs.
Et c'est quoi, justement ?
La crise alimentaire, pour moi, c'est un des aspects de la crise de l'organisation capitaliste du monde, en fait. Ça s'est déclenché en 2007-2008, et pourquoi ? Comment ça s'est déclenché, déjà ? Les gens avaient plus de pain, plus de maïs, plus de blé, plus d'aliments de base. Et il y avait 37 pays qui, officiellement par l'ONU, étaient en état de crise et auxquels il fallait apporter une aide. Un autre point, c'est cette crise alimentaire, elle n'est pas terminée, puisqu'on estime aujourd'hui à 1 milliard le nombre de personnes en manque de nourriture.
Un sixième de la planète, quoi.
C'est pas mal. Pour expliquer la crise alimentaire, il y a trois principes là, qui me semblent importants. Le premier, c'est... La politique libérale, le fait que le FMI pousse les pays à faire des plans d'ajustement structurel et à faire de la monoculture, à faire de la culture pour l'exportation et finalement à rendre les pays complètement dépendants du cours de ce qu'ils vendent en fait. Deuxième point important, c'est le fait que des terrains qui étaient utilisés pour faire la culture céréalière, pour faire l'aliment de base de l'homme, ne sont plus utilisés pour ça. Alors en fait, en 2007, je me rappelle, il y avait pas mal de documentaires à la télé qui disaient c'est à cause des Chinois, ils mangent trop de cochons, avant ils mangeaient pas autant de viande, c'est à cause d'eux quoi. Et en fait, ça c'est juste raciste, la malbouffe, le fait qu'on mange trop de viande, c'est dans tous les pays un peu industrialisés où on a cette tendance quoi. Et bon, c'est un problème, mais c'est pas le problème des Chinois, en fait, c'est un problème général. Et il y en a un autre qui est important qui se développe, c'est le problème des agrocarburants. On décide d'arrêter de faire de la bouffe pour faire de l'essence quoi, comme si le besoin de se déplacer était plus important que le besoin de se nourrir. Et alors je vais insister sur un troisième point, c'est la finance mondialisée, le fait que il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, typiquement les rois du pétrole, les assureurs, et on ne peut pas avoir liquidité. Il faut absolument toujours placer son argent quelque part. Et donc, il y avait la recherche de placement. Et là, typiquement, ils ont placé leur argent sur les denrées alimentaires. Et en 2007, le cours du maïs, du blé et... j'ai oublié...
Du soja.
Du soja, ont tous les trois explosé, quoi. Donc, les pays étaient plus capables d'approvisionner leur population. Et alors, tous ces aspects, c'était en 2007, mais c'est toujours valable aujourd'hui. À cela s'ajoutent des problèmes environnementaux, typiquement le manque d'eau et les terres polluées ou qui sont plus fertiles. Et donc, il y a toujours beaucoup de pays qui sont incapables d'assurer la sécurité alimentaire. C'est le cas de l'Arabie Saoudite, du Japon, de la Chine, de l'Inde, de la Corée, de la Libye, de l'Égypte. Et tous ces pays sont donc tournés vers d'autres pays qui ont de la terre fertile, tels que le Brésil, l'Ouganda, le Cambodge, le Soudan, le Pakistan, et pour acquérir des terres agricoles.
Et donc là, tu viens de décrire des pays qui sont quand même assez différents. On pourrait se demander, mais pourtant, si tu les prends un par un, tu as des exemples de comment ça se passe et pour comprendre pourquoi ils ont ce phénomène-là, parce qu'ils n'ont pas de point commun qui lui permettrait de...
Voilà, alors en fait, je vais vous donner quelques exemples pour se rendre compte concrètement comment ça se passe. L'exemple de la Chine, par exemple, elle a à peu près l'autosuffisance alimentaire, mais elle prévoit de se développer industriellement et donc de laisser tomber ses terres pour étendre l'industrie, quoi, en gros. Et donc là, elle a commencé donc, un accaparement. Notamment en Asie et en Afrique. Elle est partout, en fait, du Kazakhstan au Queensland, du Mozambique aux Philippines. Elle s'est vraiment développée très massivement pour faire du riz, du soja, du maïs, de la canne à sucre, du manioc et du sorgho. Et alors, le principe, c'est d'apporter les semences chinoises, d'apporter les façons de faire chinoises. Et bon, bien sûr, ils sont gentils, donc ils apportent les technologies aux autochtones. Et en fait, ça se passe pas très bien parce que les autochtones, ils ont un certain ressentiment parce qu'ils savent pas à qui va Valery et ils ont raison. En fait, c'est pas pour eux. Voilà. Donc, un autre exemple, c'est les États du Golfe. Donc, eux, ils sont confrontés à une réalité différente, ils n'ont pas d'eau. Et donc, ils importent la nourriture pour leur population. Et là, typiquement, en 2007, le fait que les cours aient augmenté, ça a été très dur pour eux. Pour donner un exemple, leur facture pour l'importation alimentaire est passée de 8 milliards en 2003 à 20 milliards en 2008. Et donc, quand la crise alimentaire a éclaté, ils ont dit « ça suffit, maintenant on prend en charge le fait qu'on se nourrit à l'extérieur ». Donc, c'est eux qui vont acheter de la terre et organiser donc l'agriculture pour la ramener chez eux, quoi. Donc, ça, c'est le cas des Saoudiens pour le blé, mais également des Émirats arabes et du Bahreïn pour d'autres plantes. Mais bon, en gros, c'est la même idée. Et donc, ils vont au Soudan, au Pakistan, en Asie du Sud-Est, en Turquie et même au Brésil. C'est marrant de voir un peu la géographie des pays. Est-ce qu'ils ne vont pas juste à côté? Ils vont juste de l'autre côté du monde, quoi. Un peu comme la Chine qui va au fin fond de l'Afrique, quoi. Il faut...
Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que certains pays qui ne peuvent pas pratiquer l'agriculture ou n'ont pas assez de parcelles agricoles sur leur propre territoire investissent le territoire d'autres pays.
Voilà. En fait, ils ne veulent pas être soumis aux lois du marché. Et donc, ils veulent contrôler cette production et contrôler les prix, finalement. Mmh.
Donc, du coup, ils vont, par le biais d'entreprises nationales...
contrôler la production de blé et le fait qu'ils nourrissent leur population. Et c'est pas... En fait, il y a la Chine, il y a aussi la Corée. Il y a des pays qui sont pas forcément classés comme les pays riches, quoi. Mais qui participent à ça. Il y a le Japon, également, qui fait ça. Et alors le Japon, c'est marrant parce qu'un peu comme ce que disait Pierre Cornu sur la France, il y a au Japon des entreprises familiales qui font de l'agriculture et qui veulent faire de l'agriculture traditionnelle, quoi, qui ont dit non aux entreprises agroalimentaires. Et donc dans le Japon, il n'y a pas d'entreprises agroalimentaires, mais il y en a des entreprises agroalimentaires japonaises qui sont à l'extérieur, quoi. Et alors, donc, elles ont commencé l'accaparement des terres, et donc notamment au Brésil et en Chine.
D'accord.
Voilà, donc, c'est un peu une sorte de gros monopoly où chacun va piquer la terre ailleurs.
Les Japonais prennent des terres aux Chinois qui eux-mêmes prennent des terres en Afrique.
En Afrique, voilà.
Donc, des dominos.
Voilà, c'est un vrai jeu de monopoly. Et pour finir, il y a un rapport qui est sorti là en avril, un rapport de la Banque mondiale. Enfin, en fait, elle ne l'a pas vraiment sorti, mais elle a fait quand même une présentation. Et donc, elle donne quelques chiffres. Elle a dit qu'il y avait 400 projets en tout dans le monde pour l'accaparement des terres, répartis sur 80 pays. La moitié des projets concernent l'Afrique, suivie de l'Asie, de l'Amérique latine et de l'Europe de l'Est. Et les plus grands accapareurs sont la Chine, le Royaume-Uni, suivi de l'Arabie saoudite.
donc on était en train de parler de l'accaparement des terres. Et dans l'introduction, tu as parlé de beaucoup de choses, mais en fait, à chaque fois que tu parlais d'un pays, tu parlais de manière générale de l'accaparement des terres et tu précisais pas, enfin, je me pose cette question, est-ce que c'est des acteurs privés ou des acteurs publics qui investissent les autres pays, les terres des autres pays ?
Alors, c'est des entreprises qui vont s'installer et faire tout le travail, mais c'est bien une volonté politique des pays, hein. Même si c'est en pratique, ils vont pas trouver des fonctionnaires pour faire l'accaparement des terres ailleurs. C'est par l'intermédiaire d'entreprises, là, je citais dans l'intro d'Aewoo, en fait, voilà.
Ouais.
N'importe qui.
C'est des objectifs qui sont à la fois intéressants pour les parties privées et puis les choix de politique globale.
Oui, enfin, de toute façon, on a peu d'illusions sur. C'est les dominants, quoi. En fait, parfois, on distingue un peu le privé et le public, mais bon, là,
c'est pas significatif.
Non. En gros, en fait, ça peut pas être public parce que tous les trucs publics, ça met un certain temps à s'installer, quoi. Et là, c'est une mutation très rapide. Et donc, pour aller très rapidement, tu vas juste proposer sur le marché, proposer une offre, un appel d'offres, et puis les entreprises répondent, et puis voilà, à mon avis, c'est juste une question de rapidité, quoi. Mmh. Et donc, l'autre aspect que j'ai pas abordé, c'est l'aspect spéculatif. La recherche de terres fertiles a incité des investisseurs financiers à se lancer aussi dans cette direction. Les institutions financières créent même des fonds spéculatifs agricoles. Alors, c'est le cas de la société new-yorkaise BlackRock Inc., l'un des plus grands gestionnaires de portefeuille. Et son fonds a acheté des terres agricoles dans le monde entier, dont par exemple 40 000 hectares en Ukraine. Black Earth Farming, un groupe d'investissement suédois, a pris le contrôle de 331 000 hectares de terres agricoles en Russie, dans la région des Terres Noires. Un autre exemple, c'est une autre société suédoise, Alcott Agro, qui a acquis 128 milliards d'hectares, 1000 hectares, pardon, dans la même région. Il y a également des groupes d'investissement britanniques, Landcock, qui investissent en Ukraine. Et voilà, donc ça, c'est des chiffres qui datent de 2008, d'un rapport d'une ONG qui s'appelle Grain, mais toutes ces acquisitions foncières continuent, quoi. Notamment, on sait que Citadel Capital ou Goldman Sachs ont également investi dans des terres agricoles. Toutes ces acquisitions foncières vont servir à produire des céréales, des huiles, de la viande pour assasier le marché mondial, c'est-à-dire ceux qui peuvent payer, toujours. Mmh. En fait, ce qui est étonnant, c'est vraiment la rapidité de cette tendance des investissements et puis la cible des pays, en fait, on va chercher partout, quoi. Au Sénégal, au Nigeria, en Ukraine, en Russie, en Géorgie, au Kazakhstan, au Brésil, comme je l'ai dit, ouais, en Australie, partout. Et le but, c'est bien de produire, en fait. C'est pas juste de poser de l'argent et d'attendre et de le revendre. Le but, c'est de s'installer et d'installer des infrastructures, de commercialiser. Et ils pensent quand même, malgré tout ce travail, avoir des rendements annuels de 10 à 40% en Europe et qui pourraient atteindre 400% en Afrique.
L'idée, c'est vraiment d'investir et de profiter par la suite du produit de ce qui a été cultivé sur place, quoi.
Oui, mais en fait, l'idée, c'est de se dire maintenant, avec l'industrie agricole, avec ce qu'on a, on a des super tracteurs, on a des super fertilisants, on a des super OGM. Donc, c'est très facile de produire. Il nous suffit d'avoir la terre fertile. On s'en fout si après, elle est un peu destroy.
Surtout si en plus elle n'est pas sur notre territoire.
Loin des yeux.
Oui, de toute façon, c'est vraiment du capitalisme pur, quoi. Il se pose pas de questions à long terme, quoi.
Et ce qui est marrant aussi, c'est de voir en fonction du pays dans lequel ils récupèrent la terre, selon l'État qui est en place, selon, disons, si le peuple est plus ou moins respecté ils ont un rendement différent au niveau des ressources, ils peuvent plus ou moins exploiter la population, même exproprier peut-être des paysans sur place directement.
Je vais revenir là-dessus parce qu'effectivement, c'est une question qui se pose, quoi. Ce qu'ils font, c'est qu'ils louent des bails au gouvernement. Donc l'aspect social, ils s'en fichent, c'est le gouvernement a le rôle de gérer la population. Donc voilà.
Donc la population est subie finalement, complètement, là, rien à...
Oui, tout à fait. La population n'a pas son mot à dire. En fait, ce qui se passe, puisque vous me posez la question, c'est que les pays cherchent les endroits où, donc, selon la Banque mondiale, le pays présente un indicateur de gouvernance foncière médiocre. En gros, on n'a pas des droits de propriété établis. En fait, il y a des communautés indigènes qui sont là depuis tout le temps, qui exploitent leurs terres, mais il n'y a pas écrit « cette terre est à moi, je l'ai achetée, j'ai un... » Bref, ils vont pas... Donc, c'est ce qu'ils recherchent. Et bien sûr, ça pose des problèmes. Et les problèmes, bon, y a les problèmes écologiques qui sont très graves parce que c'est l'agriculture intensive et que ça va vraiment à l'encontre de tout ce qu'on peut entendre à Copenhague, par exemple. Mais au niveau humain, c'est aussi très dur parce qu'il s'agit vraiment d'exproprier les populations et que ce système est fourbe. Parce que les populations, elles savent pas comment se défendre, en fait. L'envahisseur est difficile à identifier et les autorités sont complices. Donc
elles n'ont aucun moyen de se défendre.
Après, en fait, elles s'organisent, elles vont voir la Banque mondiale et elles disent que ça suffit. Par exemple, en Amérique latine, les communautés indigènes savent que sans le contrôle de leur propre terre, elles perdent le contrôle de la production alimentaire et que leur système agricole devient tout simplement une nouvelle forme de métayage. Et donc, un nombre croissant de communautés exigent le contrôle de leurs terres pour y faire leur propre culture en utilisant et en échangeant les semences indigènes, pas les semences...
industrielles qui sont amenées par les...
Les Chinois ou je sais pas quoi, là. Ils veulent utiliser leur savoir-faire locaux et ils exigent avoir le contrôle de l'eau, des forêts, des sols, des villages. Et ça c'est en Amérique latine, mais il y a le même discours en Afrique. Je citais tout à l'heure... le président de la ROPA, le réseau des organisations paysannes et des producteurs d'Afrique de l'Ouest, et ça va dans le même sens. En fait, on sent vraiment que la colère gronde. Et en fait, tous les documents que j'ai trouvés, il y a également un appel qui a été lancé contre l'accaparement des terres. Ça, c'est intéressant aussi.
J'ai un truc qui me...
Qui me turlupine,
ouais. Et c'était par rapport aussi à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à l'accaparement des terres en plus pour l'agriculture, pour les biocarburants, c'est-à-dire du coup cultiver pour se déplacer, en plus avec un discours écologique, c'est un moyen de s'accaparer des terres avec un discours idéologique écologique, tout ça. Donc comme ça s'est fait par exemple en Indonésie, donc ça a été... C'était un projet de l'Union européenne, je crois, des Verts allemands, quoi. Et donc, ils ont exproprié des paysans, comme tu disais, pour planter des palmiers, pour faire de l'huile de palme, pour avoir des biocarburants, exproprier des paysans ou récupérer des terres de forêt primaire et, évidemment, les brûler pour planter ces palmiers. Donc, on voit en plus l'hypocrisie. De ces biocarburants et de ce discours écolo, quoi.
Bon, après, les
faux écolo, bien sûr.
Les agrocarburants, je sais pas si ça passe encore comme des trucs biologiques, parce que quand on veut réduire le CO2, on peut pas brûler des biocarburants, qu'ils soient bio ou qu'ils soient d'origine pétrolière, c'est la même chose.
Il y a 3-4 ans, on n'avait pas encore tout compris les dimensions qu'impliquait le biocarburant. Maintenant, je pense qu'on en revient, quoi.
Mais en tout cas, la question du discours est intéressante. Et là, justement, on travaille le discours. Donc, typiquement, les pays, les Émirats arabes, ils vont pas faire des accaparements de terres de manière pas musulmane. C'est des bons musulmans. Et donc, quand ils y vont, il faut qu'ils puissent appliquer la charia. Donc, ils vont dans des pays où il y a des banques qui appliquent la charia, le fait qu'on redistribue aux pauvres. Voilà. Donc, tout va bien, finalement. Il n'y a pas de problème.
Et, c'est pas en rose ?
Ah oui, c'est une vitrine. Et de même, la Banque mondiale, elle encourage ce phénomène et elle essaie d'expliquer qu'on peut faire ça, on peut faire un accaparement socialement acceptable, on peut avoir des politiques gagnant-gagnant. Voilà, elle a tout un discours comme ça et elle devait présenter donc, le mois dernier, là, il y a quelques jours, en fait, un rapport qui montre le bon côté des choses, quoi, qui montre à quel point ça bénéficie à la population. Et en fait, elle n'a pas réussi à trouver, en fait, elle n'avait pas beaucoup de renseignements Elle a dit elle-même, elle arrive à la conclusion que ça ne rapporte pas aux communautés locales, que l'impact environnemental, qu'il n'y a pas d'études sur l'impact environnemental, en gros, ils font n'importe quoi, que les habitants sont souvent chassés sans être consultés ou dédommagés. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, il y a eu un appel qui a été fait par différentes organisations. Il y a Via Campesina, il y a le FIAN, là, c'est un groupe, une ONG contre la faim, Land Research Action Network et Grain, qui est une ONG aussi qui est très bien, qui fournit beaucoup de documents. Et en fait, je vais juste conclure parce qu'il est tard. D'abord, les questions agricoles ne sont pas du tout déconnectées du reste. On parle beaucoup en ce moment de la crise financière et des conséquences, notamment de la prédation des spéculateurs sur les titres des États, donc notamment la Grèce. Mais l'accaparement des terres, c'est aussi un symptôme de ce système en crise. Parler de l'accaparement des terres, c'est montrer un des aspects de la voracité sans limite du capitalisme. Deuxièmement, j'ai parlé, mais en fait, je l'ai parlé un peu rapidement, mais les communautés indigènes s'indignent et sont devenues véritablement un acteur politique aujourd'hui. On les a vus à Copenhague, ils sont venus manifester à Copenhague, et puis là, on voit qu'ils s'organisent aussi et qu'ils viennent demander des comptes à la Banque mondiale. Et je pense que c'est un mouvement, d'abord, leur mouvement a du sens, qu'ils expriment finalement leur propre révolte. Alors ok, c'est pas un parti révolutionnaire ayant pour but de renverser le système capitaliste, mais c'est aussi une sorte d'internationale de travailleurs qui sont pas salariés, mais qui ont cette propriété de réfuter la propriété privée tant défendue par le capitalisme. Donc en conclusion, je pense que c'est hyper important de comprendre cet aspect-là, l'accaparement des terres aujourd'hui, qu'il faut s'intéresser à ça. En fait, comme l'aspect des crises alimentaires, ça fait partie de ce système capitaliste aujourd'hui qu'il faut comprendre, quoi. De manière duale, je pense que les mouvements des paysans sans terre est aujourd'hui une des franges les plus combatives à côté de la jeunesse en Grèce, en Iran, sur lequel en fait, les choses peuvent bouger.
Merci. Merci beaucoup.
L'émission touche à sa fin, mais qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Mince, je me suis fait piéger moi-même. Alors, on a interviewé Pierre Cornu, que l'on remercie vraiment. Il a bien insisté sur le fait que les questions agricoles ne sont pas du tout déconnectées du reste, que l'agriculture française est duale, que la PAC est un lieu de compromis et qu'il n'a jamais été question en Europe de laisser l'agriculture aux lois du marché. Et en ce qui concerne l'accaparement des terres, c'est une facette de la voracité du capitalisme. Il s'agit de déplacement de population, d'extension d'une agriculture intensive, donc destructrice, dans un non-sens global, je dirais.
Donc cette émission touche à sa fin. Elle a été réalisée par Lise, Jean et JM au micro, avec Antoine aux manettes et aussi au micro. Elle a été entrecoupée par quelques musiques choisies par Antoine, notamment... À la Buzzing Octet, Electric Masada, et Dave Douglas. Vous pouvez réécouter les émissions qui sont diffusées sur le blog audioblog.arteradio.com/panthère-rouge. Et on va maintenant passer à l'agenda.
Ouais, alors j'ai juste quelques dates à vous proposer. La première, c'est un débat organisé par la société Louise Michel. C'est au Café Les Augustes et c'est vendredi prochain à 20h30. Et le thème, c'est les luttes sociales ici. Et deuxième date, alors j'en ai déjà parlé mais j'en reparle, c'est Bernard Friot qui vient donc parler des retraites, quelle riposte pour sauver les retraites. C'est jeudi 3 juin à 20h30 à la Maison du Peuple. Alors Bernard Friot, on l'avait interviewé et c'est un gars qui explique que finalement être retraité, c'est un peu être révolutionnaire, c'est contester le salariat aujourd'hui en fait. Voilà, donc c'est vachement bien, on a l'impression que c'est un peu vieux mais c'est un truc d'anarchiste en fait.
Merci. Donc si vous voulez nous écrire, en particulier si vous avez des infos chouettes à nous faire partager, eh bien on va lire vos mails et en général ça nous fait réfléchir. L'adresse c'est
panthère-rouge, tout attaché, 93.3 en chiffres @gmail.com.
Donc on se retrouve le 30 mai et d'ici là,
comme dit l'ami Colin,
surtout,
ne lâchez rien.
Thank you.